Nous sommes dans le studio 621 de France Inter à la Maison de la Radio avec toute l'équipe d'Interception, Géraldine Allot et Vanessa Descoureaux. Vanessa, c'est le moment de clôturer vos choix dans l'offre considérable d'Interception. Troisième et dernier coup de cœur pour vous ?
C'est le choix d'une question de société, contrairement à mes deux premiers choix, celui de la fin de vie, question à laquelle on se projette, face à laquelle plutôt on se projette tous un moment ou un autre de notre vie, parce qu'il y a eu dans la programmation d'Interception plusieurs émissions consacrées à ce thème douloureux, mais c'est une question qui a pris de l'ampleur dans le débat national, y compris dans le débat parlementaire, au cours des 20 dernières années. Moi, l'émission que j'ai retenue, elle remonte à 2006, elle suit précisément trois femmes qui ont été confrontées à la mort d'un des leurs et par conséquent, elles ont réfléchi à la leur. Interception, c'est une émission qui est assez multiforme. C'est une émission avec du son, de l'ambiance, du voyage, parfois des terrains un peu difficiles. Bah là, pas du tout. On est dans une émission purement de témoignage, dans le sens où c'est la pureté des mots. Il n'y a pas d'effet dans cette émission. Les mots sont forts, ils sont pesés. L'idée de choisir son départ est réfléchie, elle est délicate et rien que le titre de cette émission est subtil.
Et le titre, c'est « Je vous tire ma révérence ». C'est un reportage de Benoît Colomba, diffusé la première fois le 30 avril 2006.
Interception.
Bonjour, Chantal Chanel est infirmière, Laurence Tramois est médecin. Le 18 mai prochain, la cour d'appel de Bordeaux doit décider si oui ou non ces deux femmes seront jugées par une cour d'assises. En août 2003, elles ont injecté une solution mortelle à une patiente de 65 ans en phase terminale d'un cancer. Elles sont mises en examen pour empoisonnement et complicité d'empoisonnement et risquent une longue peine de prison. En France, l'euthanasie est un crime. La justice sait parfois être compatissante, le non-lieu rendu dans l'affaire Imbert en témoigne, mais la dépénalisation n'est pas à l'ordre du jour. La loi Leonetti, entrée en application en février, a amélioré le droit des mourants, mais n'a pas autorisé les médecins à activer la mort en phase terminale. La loi leur permet simplement de soulager le malade, y compris s'ils prennent ainsi le risque d'abréger sa vie. Sur un sujet aussi intime que celui du droit ou non de choisir sa mort, les arguments des uns et des autres, vous allez l'entendre, bousculent les certitudes. Benoît Colomba a rencontré trois femmes qui ont accepté de raconter avec simplicité et courage leur propre expérience de la mort, celle d'un proche ou bien celle qui les attend à l'issue d'un long combat contre la maladie. Josiane et Ariane, par exemple, ont décidé l'une et l'autre que si leur quotidien devenait trop douloureux, eh bien, elles choisiront elles-mêmes le moment et la façon dont elles quitteront cette vie. Elles envisagent de se rendre en Suisse où le suicide assisté est autorisé lorsqu'un malade se sait condamné. L'année dernière, 12 Français ont fait le voyage. Voici Interception, un reportage signé Benoît Colomba. Je vous tire ma révérence.
Ah, j'ai plus beaucoup.
Et avant d'habiter dans cette ferme, vous habitiez dans la même commune ?
J'habitais Bondarois, une maison qu'on avait en... Et ma mère est décédée, ça va faire de un an. Et c'est en... Comme j'ai accompagné en fin de vie, c'est pour ça que je sais un peu ce que c'est. Ah. Et puis en remontant de... C'est la commune qui est à côté, en bas à 2 km.
Donc là, on est à un village juste à côté de Pithiviers.
Pithiviers.
Hein. Et là, c'est très grand. Il y a combien de pièces dans cette ferme ?
Ben ici, j'ai trois chambres, la pièce ici, et puis une salle de bain, et puis ça.
Le premier que j'ai pris, je crois que c'est le nouveau.
Alors comment ça s'est passé précisément ? Vous avez un souvenir précis de la scène du jour où votre mère est partie, c'était en votre présence, oui, avec le médecin. Est-ce que vous pouvez raconter ça ?
Ben ça s'est passé, d'abord on l'a appelée un samedi, parce qu'on pensait qu'elle était en fin de vie. Et le médecin, le docteur est arrivé et il lui a dit bonjour. Et elle lui a dit bonjour docteur. Alors là, il a dit écoutez, je suis désolé, mais là, il n'en est pas question. Hein, c'est... Et puis, en une semaine, son état s'est vraiment dégradé. Elle n'urinait plus, elle vraiment, c'était... Et il est revenu le samedi d'après.
À votre demande.
À notre demande. Et là, il lui a dit bonjour, il lui a les mots qu'elle était censée comprendre, capter et tout. Et là, il n'y avait pas de réponse. Elle n'a pas levé les yeux, il a dit bon, bah ok. Il lui a pris bien l'attention, enfin tout ce qu'il faut quand même pour ne pas assassiner Galia. Mais voilà, la première piqûre a eu lieu à 3 heures de l'après-midi. Non, 10 heures le matin, après 3 heures de l'après-midi, il y en a eu 5 en tout.
5 piqûres de morphine.
5 piqûres de morphine, oui.
À chaque fois, en votre présence
À chaque fois, soit... Moi, à 3 heures du matin, il a dit, ça sera pour 6 heures. Je suis partie. Non, à minuit. Il m'a dit, maintenant, ça ne sera pas avant 6 heures du matin. Je suis venue dormir ici, et elle est décédée à 3 heures du matin. Donc, lorsqu'elle est décédée, moi, je n'étais pas là, mais j'ai fait quand même tout le processus. Je nomme pas le médecin, bien sûr.
Donne pas son nom, bien sûr.
Parce que je ne le souhaite pas.
Parce que c'est illégal, c'est interdit.
En France, c'est interdit, mais je trouve qu'il a été très humain. Il y a très peu de médecins, surtout en campagne, qui ils envoient les gens à l'hôpital et puis débrouillez-vous, quoi.
Pour vous, c'est un geste d'humanité.
Pour moi, c'est un geste d'humanité, oui. Ah, moi, je le prends comme ça, oui.
Et vous gardez quel souvenir, justement, de ce moment-là?
Je trouve que c'est très, très lourd à porter et j'ai quand même un sentiment de me dire, est-ce qu'il fallait le faire?
Quand même, ça reste, ça.
Oui. Parce que c'est quand même, on prend la vie de quelqu'un, J'ai quand même un doute. Je dirais, c'est pas de la culpabilité, c'est un doute,
Vous vous dites, parfois, est-ce que j'ai eu raison de faire ça?
Non, parce que je pense que c'est quand même ce qu'il fallait faire, et je pense que surtout, c'est ce que ma mère souhaitait.
Alors le doute porte sur quoi?
Sur le fait de dire, est-ce qu'elle n'avait vraiment plus à vivre, plus de temps, de bon temps à vivre?
Est-ce qu'on n'aurait pas pu gagner un jour, deux jours, une semaine?
Voilà.
Mais en même temps...
Agréable. Mais de toute façon, non, c'était devenu un légume, quoi. C'était... Mais il y a quand même... C'est important, la vie de quelqu'un.
Est-ce que vous aviez conscience, avec votre mère et ce médecin, de faire quelque chose d'illégal?
Non.
Parce que c'était illégal de faire ça.
Oui. Non, non, ça, c'est pas... Non. Non. Ah, non. Et puis, ce serait à faire, je le referais. Malgré toute la lourdeur de ce que j'ai pris après. Mais je le referais, oui.
Quelle relation vous avez avec votre fils aujourd'hui? Est-ce que l'annonce de votre cancer a changé quelque chose entre vous?
L'annonce, pas sur le moment, parce que c'est le deuxième, c'est une récidive. Mais l'annonce du délai de vie, oui, a fait prendre conscience à mon fils qu'on n'avait peut-être pas assez exploité nos relations.
C'est un choc pour lui?
Oui.
On s'arrête 5 minutes et on reprend. Il n'y a pas de problème.
Il y a 6 ans, Josiane est opérée d'un cancer du sein. Le 13 septembre 2005, son cancer atteint le foie, les poumons et la colonne vertébrale. Le pronostic des médecins est sans appel. Entre 3 et 6 mois d'espérance de vie. Josiane prend alors contact avec l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Pas question pour cette veuve de 66 ans de prolonger inutilement sa vie. Josiane est actuellement sous chimiothérapie et réagit plutôt bien pour l'instant au traitement, même si elle a parfaitement conscience de la précarité de son état de santé.
On m'avait prédit des tas de malaises, des tas de choses comme ça que je n'ai pas eu. Je ne vomis pas, j'ai jamais mené une vie aussi active que depuis l'annonce de la maladie. Peut-être que ça m'a boosté un petit peu, de dire je vais au théâtre une fois par semaine. Depuis le 13 septembre, j'ai fait 15 000 km en voiture. Je n'arrête pas.
Oui, on a l'impression que tout d'un coup, votre vie s'accélère.
Oui, j'ai dit, vraiment, il faut que... Et puis, il s'avère que les analyses sont très, très bonnes en 5 séances de chimio.
Ça veut dire que vous réagissez extrêmement bien au traitement.
Alors maintenant, je trouve que tout va bien. Voilà. Et puis j'ai dit, quitte à ce que ce soit court quand même, parce que on vous offre un sursis, on ne vous offre pas 20 ans.
Vous avez l'impression d'être en sursis?
Oui. Mais je me suis tout de suite dit, je vais vivre comme quelqu'un de pas malade.
Parce que je vais vous décrire pour les auditeurs et les auditrices, parce qu'on n'a pas l'image en radio, mais vous avez quand même une bonne bouille ronde. Bon, alors c'est, évidemment, ce n'est pas vos cheveux, mais des cheveux argentés, on ne peut pas deviner que ce sont des...
On ne peut pas savoir
que ce sont des faux cheveux.
Naturellement, je suis comme ça. Donc.
Voilà, vous êtes là, vous habillez d'une façon très féminine, vous avez des yeux rieurs. Non, mais c'est vrai, donc on n'a pas du tout l'impression d'une personne en sursis.
Ben non, non, ben j'espère. Et puis peut-être que effectivement c'est pas un sursis. Je trouve que l'esprit marche avec le corps. La dernière chimio, le soir, j'ai été voir. C'est terminé. J'ai été voir La Veuve Joyeuse mise en scène de Jérôme Savary. Un spectacle magnifique d'ailleurs. Demain soir, je vais voir avec une bande d'amis. On va voir Dernier Appel avec Josiane Balasco. Voilà. Là, c'est pas moi qui ai inventé le titre.
J'ai pas fait de remarque. Hein. Vous choisissez toujours quand même avec parcimonie les spectacles que vous allez voir.
Ben moi, j'ai déjà pensé à tout ce que j'avais pas fait, tous mes rêves et que j'avais pas réalisé.
Comme par exemple.
Ben les voyages, j'en ai pas fait assez. Là, je pars en Afrique du Sud au mois de mars. Là.
Ah, c'est là, c'est le papier qui est sur votre sur votre table du salon.
Et ça, c'est un rêve que j'ai depuis 30 ans. Bon, moi, j'ai dit, alors, ça, il faut que je fasse ça.
L'Afrique du Sud.
Ouais. Le parc Kruger, la visite du parc Kruger.
Ouais.
La plus grande réserve animalière au monde. J'ai fait la liste de mes rêves. Je me suis acheté un manteau de vison.
C'est vrai?
Oui, oui, c'est vrai, oui. 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 Maintenant, je fais ou je fais rien ou je fais bien. Ou je fais beau ou je fais... Voilà. Et puis, dans les amitiés, ça a été pareil. J'ai gardé que ce qui était chouette, quoi.
En fait... Qu'est-ce que vous n'acceptez pas? Pourquoi vous dites quand je réaliserai que la maladie est plus forte que moi, j'irai en Suisse pour mettre fin à mes jours? Pourquoi? Parce que vous n'avez pas envie de... Qu'est-ce qui vous fait peur en fait? C'est
la souffrance.
La souffrance.
Oui. J'accepte l'idée de la mort, je m'y suis faite, je n'ai pas encore accepté l'idée de la souffrance. La souffrance, la dégradation, et puis pour mourir. Là, j'ai beaucoup souffert pendant 2 mois, mais finalement, ça a été positif. Là, cette souffrance-là, je l'accepte. Mais quand on vous dit, ça sera maintenant comme ça pendant 2-3 mois, bon, bah, c'est stupide, c'est inutile. Souffrir pour rien, je vois pas l'intérêt.
Est-ce que vous pouvez nous montrer votre manteau de vison?
Oui. Oui. J'en ai même acheté 2 des manteaux. Voilà. Et puis j'ai acheté celui-là.
Vous pouvez nous les décrire? Alors là, vous avez deux manteaux devant vous.
Oui.
Un qui est marron et l'autre, ça c'est quoi? Bleuté?
Ça c'est bleu, ça c'est en pur. Puis vous voyez, j'ai fait faire la veste qui va, la jupe qui va avec. Voilà. Sauf que c'est pas mal. Hein.
C'est magnifique. C'est dommage, c'est pas la télé là. Là, vous faites très princesse russe.
Voilà. C'est tellement agréable à porter, la fourrure. Ah,
oui, c'est vrai.
C'est chaud, c'est léger, c'est...
Bon, bah merci beaucoup.
Je vous remercie de votre visite. Puis, dommage que ce soit un sujet aussi sérieux, mais si ça peut faire avancer le schmilblick.
Merci.
Au revoir.
Et je vous dis à bientôt.
D'accord. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Bon retour.
Au revoir.
Morpa, dans les Yvelines. Nelly, 68 ans, est une ancienne infirmière qui milite aujourd'hui à l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Le 17 juillet 2004, son mari est hospitalisé pour une ischémie du pied gauche. Une gangrène le fait souffrir le martyre, amputation, plaie, escarres, morphine, d'hôpitaux. En maison de retraite, l'état de santé du mari de Nelly ne cesse de se dégrader. Les complications médicales se multiplient jusqu'à son HAD, son hospitalisation à domicile. Un calvaire de 4 mois avec Nelly à ses côtés 24 heures sur 24. C'est elle qui, le 17 juin 2005, décide de mettre un terme aux souffrances de son mari. Une fin de vie qu'elle évoque avec beaucoup de colère.
Ça va durer 4 mois. Il va se détériorer de plus en plus. Il va dégager une odeur absolument infecte. Il va pourrir tout vivant. Pourrir tout vivant. Il va être mis, alors, il prendra de la morphine en gélule. Il arrivera un moment où il les avalera plus, les gélules. Il me croquera les doigts. Il prendra une baffe. Il me dira, t'as vu ce que tu m'as fait? J'ai dit oui, mais toi tu t'es permis une chose. Il m'en flanquera 2 coups de poing dans la figure. Tellement il est exaspéré de souffrir. Tellement j'en fais pas encore assez. Tellement... Bon, puis mon fils qui est là peut même en témoigner. Il va vivre l'agonie de son père. C'était des hurlements la nuit malgré les piqûres de morphine. Ça a été l'amputation de sa jambe droite. La cavalerie de la HAD un jour a débarqué à la maison. Alors il y avait le psy, il y avait la doctoresse, il y avait celle qui contrôle les infirmières, et il y avait l'infirmière. Ils sont tous allés voir dans l'état où il était. Et la doctoresse a posé la question à la mienne en disant « Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant ?» Et ma doctoresse a dit « Eh ben le morphiner. » Et on parle euthanasie. Et puis, elle me dit, scandalisée, et le psy dit dans la foulée avec elle en même temps, « Mais madame, vous parlez euthanasie !» Ouh, je me dis, là, ma vieille, emprunte pas ce terrain glissant. Faut pas parler euthanasie, alors on va parler peut-être, morphiner. Il faut le morphiner, il faut faire des piqûres. Ah ben oui, madame, effectivement. Euthanasie, c'est tabou. Alors je me suis mis à parler d'aide, à mourir dans la dignité. Je crois qu'il va falloir l'aider, parce que ça suffit, parce qu'il pourrit, parce qu'il pue la charogne. Et là, j'emploie des mots forts pour leur faire entendre et... À part eux, je me dis mentalement, tu feras ce que tu voudras. Parce que maintenant, ça suffit, c'est assez, c'est bon.
Quand vous leur dites tout ça, quand vous sortez ce que vous avez dans le ventre, comment ils réagissent?
Eh bien, avec vous, madame, on sait ce qu'il en est. Ils sont partis avec ça. Et mon fils les a regardés, m'a regardé, il m'a dit, chut, on fera ce qu'on voudra. Quelques jours après... L'infirmière, le vendredi où la décision va être prise, l'infirmière, je vais la voir et elle me montre son dos. On voit que les os de son bassin. Elle toque avec sa pince. Elle toque ses os. Il n'a plus de chair, il n'a plus rien. Je sors de la chambre, je dis à l'infirmière et l'aide-soignante, « Bon, eh ben, ça sera fait aujourd'hui. » Et j'emmerde tous ceux que ça dérangera. Et ceux qui viendront me demander des comptes seront à qui parler. Je fonce, ma doctoresse était là. Je lui dis, je tape un grand coup de poing sur la table et je lui dis, c'est là, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. C'est pas ce soir, c'est pas demain matin, c'est pas dans 8 jours, c'est là tout de suite. Elle était d'accord. Elle attendait que moi je lui dise.
Normal.
Elle avait eu le médecin de la HAD au téléphone plusieurs fois, qui lui avait dit hypocritement, « Alors, madame, qu'est-ce que vous comptez faire, vous, en tant que docteur de ce malade ?» Et ma doctoresse a dit, « Ben, le morphiner. » Voilà.
Et comment ça se passe concrètement à partir de ce moment-là? Vous donnez votre feu vert, mais comment ça se passe?
Eh bien, c'est une injection de morphine associée à un autre produit que je t'ai. Ma doctoresse va faire la première.
La première injection?
Oui. Et moi, je vais faire les 2 autres. Je lui avais dit, de toute façon, je t'accompagnerai jusqu'au bout. 4 semaines avant, il m'avait regardé. Il n'y avait plus que ses yeux bleus, c'est lui-là. Il n'y avait plus que ses yeux bleus.
Le dessin sur le mur, là.
C'est lui, oui. C'est son portrait, qui a été fait en 98. Il est beau, hein?
Un beau barbu.
C'était un beau barbu, à barbe blanche. Et l'œil coquin. Je lui avais dit qu'il finirait grabataire à ce couillon.
Dépénaliser l'euthanasie. C'est l'objectif de l'ADMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, opposée à la loi Leonetti d'avril 2005. Que dit cette loi? En résumé, pas d'acharnement thérapeutique. Oui, pour calmer les souffrances du malade, quitte à abréger sa vie. Mais non, pas d'aide active à mourir. Permettre aux médecins d'échapper aux poursuites judiciaires en encadrant les bonnes pratiques, pour reprendre l'expression du député UMP Jean Leonetti à l'origine de la loi. Arrêter un traitement si le malade ou sa famille le souhaite. Mais pour l'ADMD, tout cela ne va pas assez loin. En mars dernier, l'association a présenté un projet de loi préconisant une aide active à mourir, une exception d'euthanasie dans des cas bien précis, pour des personnes en phase terminale, atteintes d'une maladie incurable ou dans un état de dépendance incompatible avec leur dignité. Une exception d'euthanasie que Jean Leonetti n'a pas voulu intégrer dans sa loi.
Il y a deux raisons. Il y a une raison juridique qui consiste à dire qu'il faudra de toute façon que le juge aille voir si la raison évoquée est vraiment la raison qui est la bonne. Je dis, j'ai injecté un produit ou je demande qu'on injecte un produit chez mon père parce que j'estime qu'il est en souffrance. Mais en même temps, je suis son héritier. Pardon de dire que autour des lits des mourants ou des souffrants, il y a le sublime et il y a aussi le sordide. Il y a quand est-ce qu'il va mourir parce que nous devons partir en voyage. Et ces choses-là existent. Donc il ne faut pas nier que l'humain n'est pas fait que de bonté autour des lits des mourants. Donc la première idée, c'est que ça ne débarrassera pas le problème juridique. Et Robert Badinter nous a dit, vous créerez plus de problèmes en dépénalisant que vous n'en résoudrez, parce qu'il y aura quand même enquête pour savoir si la motivation était effectivement une motivation compassionnelle et non pas une motivation égoïste. Le deuxième élément dans l'injection mortelle, pour qui je fais l'injection mortelle? Pour empêcher quelqu'un de souffrir? Non, puisque je peux l'empêcher de souffrir. Pour hâter sa mort? Pour qui? Pour moi qui le vois souffrir et qui souffre de le voir souffrir? Est-ce que l'injection mortelle, c'est pour soulager le patient qui meurt? Ou est-ce que c'est pour me soulager de voir mourir quelqu'un que j'aime ou quelqu'un qui est en face de moi et qui me rappelle ma mort? Il y a des gens qui m'ont dit, vous savez, moi je lis dans le regard de mon père qu'il a envie de partir et j'aimerais qu'on lui injecte un produit pour qu'il parte parce qu'il ne me reconnaît plus. Est-ce que demain nous allons envisager que les gens qui souffrent de voir souffrir leurs parents qu'ils aiment auront le droit de leur donner la mort?
Sauf à considérer que la personne en question ait fait la démarche en son âme et conscience auparavant, en disant qu'elle accepte qu'on lui donne la mort.
Alors ça, c'est un autre débat qui est très intéressant et qui est très difficile à résoudre, mais qui est celui, au fond, du suicide assisté. Je veux mourir, je peux pas me donner la mort, donnez-moi-la. Et c'est un problème qui est pas simple. Hein. J'ai envie de mourir. Je l'écris. Je me suicide et je prends des doses de barbiturique toxique. On ouvre la porte de ma chambre et on me découvre ainsi. Est-ce qu'on doit respecter ma volonté, ma liberté, ou est-ce qu'on doit me réanimer? Voyez bien que le débat est plus compliqué. Et aujourd'hui, nous réanimons. Et qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, ces gens, dans 80% des cas, ils ne récidivent jamais. Ça veut dire que la liberté et la volonté, elles fluctuent vis-à-vis de la vie et de la mort. Et que ma vraie liberté, c'est de changer d'avis. Et donc, je peux avoir envie de mourir ce soir parce que je souffre. Et si demain je vous enlève la souffrance, peut-être que demain je vais avoir envie de voir mes petits-enfants ou de rencontrer quelqu'un et j'aurai encore envie de vivre. Est-ce que j'ai le droit de demander la mort comme j'ai le droit qu'on respecte ma vie? Et on sent bien que le droit n'est pas équivalent. Et là, c'est le débat. Est-ce qu'on se bat dans ce pays entre la liberté, je fais ce que je veux de moi-même, et la vie humaine? La vie est sacrée et on voit bien qu'est-ce qu'il y a comme religieux derrière. Alors, sur la liberté, on a bien vu que ma liberté, de temps en temps, je passe outre. Je réanime le suicidé. En même temps, est-ce que j'ai le droit de vendre mon rein à quelqu'un qui me l'achète? Non. Pourquoi? Il est à moi, ce rein. Vous voyez bien que quand c'est humain, la viande a une valeur qui est différente de la viande animale. Et puis, de l'autre côté, est-ce que la vie humaine est sacrée? Mais non, elle n'est pas sacrée. Est-ce que c'est une vie humaine, ce malade qui est sous respirateur, qui n'a plus de cerveau, qui n'a plus d'avenir, qui est simplement maintenu artificiellement en vie par des machines? Non. Et vous voyez qu'en fait, ce que nous croyons être les deux piliers, qui l'est, la liberté et l'autonomie humaine d'un côté et la vie humaine de l'autre côté, qui sont les deux valeurs qui portent notre civilisation, elles sont aussi contestables dans certaines circonstances. Et c'est la raison pour laquelle il faut être extrêmement prudent lorsqu'on fait une loi, parce qu'elle va s'appliquer non pas à monsieur un tel ou à monsieur un tel, elle va s'appliquer à tout le monde. La loi, elle est normative et universelle. Elle dit la règle, elle la dit pour tous. Eh bien, moi, j'ai la notion que si on veut une société civilisée, eh bien, il faut que l'on dise que chaque humain a une valeur. Moi, j'avais une grand-mère, quand j'allais la voir, elle me disait « Ah, je devrais mourir, à quoi je sers ?» Elle attendait qu'une chose, c'est que je lui dise « Tu sers à me faire plaisir parce que j'ai le plaisir de te voir. Tu sers à ce que je t'aime. » Et donc, peut-être qu'il faudrait quand même dire à ceux qui sont pas jeunes, forts, performants, ratables, qui ont toute la réussite, qui gagnent de l'argent, qui en font gagner aux autres, il faut leur dire tout simplement, ils sont pas inutiles, ils font partie de l'humanité. Et cette partie de l'humanité, c'est que le mendiant, le mourant, le malade, le handicapé, et même la personne qui a perdu un peu ses facultés, eh bien, ils font encore partie de l'humanité. Ces vies-là méritent d'être respectées.
Pour Jean Leonetti, la loi permet aujourd'hui de résoudre la majorité des problèmes. Pourtant, le débat fait toujours rage. Si un non-lieu a été rendu dans l'affaire Vincent Imbert, le docteur Laurence Tramois et l'infirmière Chantal Chanel ont été renvoyés devant les assises après une injection mortelle à une cancéreuse en phase terminale. Selon un récent sondage Sofres, 9 Français sur 10 se disent favorables à une légalisation de l'euthanasie dans certains cas. La Suisse va beaucoup plus loin. C'est l'un des rares pays dont le code pénal ne punit pas le suicide assisté, pas uniquement pour les personnes en fin de vie, mais aussi pour les malades condamnés. Depuis 1998, l'association Dignitas, près de Zurich, a permis à 524 personnes de mettre fin à leur jour en buvant une solution létale sous le contrôle de la justice. Coût de ce suicide assisté, 3500 euros. 57% des personnes viennent d'Allemagne. En 2005, 12 Français ont fait appel à Dignitas. Ariane a pris récemment contact avec l'association suisse.
Oui, Benoît Colombin,
propriétaire. T'es sûr que c'était vous? J'attends. Oh là. Attention, touchez pas parce que j'ai cassé un truc avant. Ah, ouf.
Bonjour.
Bonjour, entrez. Je viens de casser quelque chose, j'étais en train de me dire, bon, faut que je me repose une demi-heure avant qu'il n'arrive, c'est pas grave.
Qu'est-ce que vous avez cassé?
Non, c'était un espèce de grand verre à pied. Ça, c'est mon chat qui en a marre de voir beaucoup de gens arriver chez moi. Un balou. Ah bon, je baille, donc ça veut dire, vous pouvez entrer, il n'y a pas de souci.
Ça va, il m'accepte.
Oui, il vous observe. Bien, je m'appelle Ariane. J'ai 57 ans. Ça me fait toujours drôle de dire ça, parce que je ne les ai pas dans la tête. J'ai 57 ans, toujours plein de projets, plein de choses à faire, que je ne pourrais peut-être pas faire, et j'ai depuis 20 ans une sclérose en plaques. Depuis septembre 1986, 14 septembre, c'est un jour qu'on n'oublie pas. J'avais donc 37 ans, j'avais encore deux enfants qui étaient jeunes. Mon fils aîné n'était pas encore majeur, il avait 16 ans et demi. Mon fils cadet avait 13 ans et demi. Et moi, je commençais enfin à avoir un travail qui pouvait me permettre d'avoir... J'étais divorcée depuis longtemps, donc c'était tout un espoir de vie qui se brisait. Je présume que si j'avais pas eu mes fils, je me serais flinguée, illico presto. D'abord parce que je n'étais pas bien physiquement. Il faut vraiment comprendre ce qu'est la sclérose en plaques parmi certaines maladies très très graves. C'est que, en même temps, on vous dit ce qui s'est passé, que vous n'êtes pas, c'est pas une maladie mortelle, entre guillemets, mais que vous êtes condamné à ce que moi je considère le pire, à être progressivement paralysé. Vous voyez, c'est une épée de Damoclès qui est dans le temps. Ça peut être très vite, ça peut être très lent. Vous ne savez strictement pas ce qui vous arrive. En tout cas, tout ce que vous savez, c'est qu'avoir déjà ce qui vous arrive sur l'instant où vous le découvrez, c'est que votre vie, elle est plus gérable.
Là, c'est votre vie qui a explosé.
Explosé complètement. Mais je suis restée 3 jours enfermée chez moi. J'étais perdue, désarçonnée, je ne savais plus où j'en étais. Et au bout de 3 jours, j'ai dit, bon, j'ai 2 enfants, je vais me battre. Je vais essayer de me battre. Donc en fait, au bout de 3 jours, je leur ai parlé, je leur ai dit, écoutez, voilà, Michael, tu sais que j'ai une sclérose en plaques, qui m'avait un peu accompagnée chez le docteur et autres. Tu sais la vérité, j'ai passé 3 jours, vous n'êtes pas encore très très grand, mais vous n'êtes plus des bébés, je vais vous dire ce qui se passe, ça peut être très grave, peut-être pas. Je vais me battre jusqu'au bout, mais il ne faudra pas m'en vouloir. Si un jour, si je sens que je deviens paralysée, je ne veux pas ça pour moi ni pour vous, que vous voyez une mère qui se dégrade. Et ma décision est prise, si un jour je sens que la paralysie me rattrape, il ne faudra pas m'en vouloir, mais je me retire du jeu.
Justement, voilà. 20 ans après le moment où on vous annonce que vous avez votre sclérose en plaques, aujourd'hui, quelles sont les séquelles physiques que vous avez de cette sclérose en plaques ?
C'est pas des choses, comment vous dire, la sclérose en plaques, elle évolue, dans mon cas, a priori, elle évolue par poussée. Je peux très bien le matin être pas trop mal, marcher, sortir, et puis d'un seul coup, l'épuisement, là je vais à 2 doigts de m'évanouir de fatigue, ou ma vue va tout flancher. Je peux avoir, mais ça va venir, ça va partir, ça peut durer plusieurs jours. Je peux avoir des crises de vertige terribles. Et là, je ne peux plus bouger d'un millimètre parce que j'ai l'impression d'être sur un bateau complètement fou. Je vais tomber, je vais tout laisser tomber par terre. Je n'ai pas de douche, j'ai une baignoire, une petite baignoire, mais une baignoire. Je ne peux pas monter dans la baignoire parce que je ne suis pas sûre de pouvoir en sortir. Mes cordes vocales peuvent être touchées. Je peux très bien aussi d'un jour ne pas bien parler, ça m'est arrivé. Je peux m'étouffer en avalant de travers, ça m'est arrivé à nombreuses reprises. M'étrangler avec ma salive. Je ne sais pas si vous imaginez, vous avalez votre salive de travers. Mais ça, c'est en dents de scie. Si vous voulez, c'est des séquelles qui font que je ne peux jamais prévoir, ça c'est pour les séquelles les plus supportables, entre guillemets, je ne peux jamais vraiment prévoir de sortie, de, je ne peux pas planifier ma vie. Et je suis arrivée au stade que je m'étais jurée de ne jamais dépasser. Ah, excusez-moi, ça c'est, j'allonge un peu ma jambe, parce que j'ai très très mal. C'est bien ça le problème. C'est pour vous, vous voulez vous appuyer sur ça, ce sera plus moins fatigant pour vous, profitez-en. Ça, c'est depuis l'opération que j'ai ça.
C'est un déambulateur ?
Oui, alors si j'ai jamais eu ça en 20 ans de sclérose en plaques. Hein, pour moi, ça, c'est la signature de l'invalidité, ça, je ne peux pas supporter.
Je vais poser mon micro sur votre déambulateur, ça ne vous dérange pas ?
Pas du tout, je vous le propose, installez-vous confortablement, que ça serve à quelque chose. Appuyez votre bras si vous voulez, voilà.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez encore l'appétit de vivre ?
Non. C'est pas la vie, ça.
Non.
C'est pas la vie. Moi, comme je vous dis, je marchais de bout en bout dans Paris. J'adore marcher. J'ai toujours aimé marcher. J'ai fait de la varap, j'ai fait du vélo, j'ai fait de la danse classique, j'ai fait des travaux chez moi toute seule. J'ai divorcé jeune, j'étais très autonome. Je m'intéresse à beaucoup de choses. Qu'est-ce qui me reste ? Ma vue baisse. Ma passion, c'est la lecture. Je peins, je dessine.
Il y a un tableau là derrière en face de nous, un dessin.
Et voilà, j'en ai d'autres. J'ai fait avec de la craie de couleur, du carré, tout ça. Ma main gauche est en train de se paralyser. Donc, tout ce qui fait le plaisir de la vie, qu'est-ce que c'est ? À l'âge que j'ai, 57 ans, ça fait 20 ans, j'avais 37 ans. Je découvre ce que c'est que de vivre, comment dirais-je, dans la solitude, dans une espèce de réclusion forcée, comme si j'avais 80 ans ou 95 ans. Qui aimerait ça ?
C'est-à-dire que pour vous, le sel de la vie s'est envolé ?
Il n'y a plus de sel, il n'y a plus rien, il n'y a plus de piment, il n'y a plus de saveur. Je suis punie de je ne sais pas de quoi, c'est comme si c'était une punition, c'est une prison. C'est mon grenier, je suis dans les hauteurs, là, voilà, c'est tout. Mon corps me trahit.
Vous lui en voulez ?
Je crois que oui. Quand je vois ma jambe, j'ai envie de dire saleté de jambe, tu veux pas bouger. Je n'arrive pas à dominer la douleur, parce que la sep fait mal aussi parfois. Il y a des contractures.
La sclérose en plaques.
Oui, ça fait mal, ça crée des spasmes, etc., des tas de saloperies. Et c'est déstabilisant. Parce que vous êtes là, vous êtes en train de vous battre contre une maladie qui vous paralyse. Et vous voulez pas. Vous voulez pas. Parce que je veux vivre, j'aime la vie. Je veux vivre, mais pas vivre comme ça. Ça, ce que je vis, ce n'est pas vivre.
Donc ça veut dire que vous songez...
De toute façon, oui, bah, utilisant le mot que tout le monde utilise, bien que je déteste ce terme, je vous dirai pourquoi, me suicider, c'est-à-dire, moi j'ai dit simplement avancer l'heure de la mort.
Est-ce que vous avez déjà imaginé ce jour-là ?
Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai repassé le film en long, en large, en travers, sans savoir s'il se réalisera d'ailleurs, cette manière-là.
Et qu'est-ce qui se passe dans ce film ? Vous y avez pensé ?
Oui, j'y ai pensé. Je m'y suis déjà préparée progressivement, puisque je me débarrasse de beaucoup de choses chez moi. Progressivement,
c'est-à-dire ?
J'élague. J'élague, je garde, par exemple, je vous parlais des livres tout à l'heure, je garde...
Donc vous dites je me déleste ?
Je me prépare, oui. C'est l'heure de vérité, où je récupère un minimum d'autonomie, et je continue encore un petit peu, notamment d'essayer de terminer un bouquin que je voudrais faire éditer, ça c'est le bon dernier espoir, de faire quelque chose encore de ma fiche de vie. Sinon, bah, je tire ma révérence. Des papiers qui sont là. Ici, que je ne me trompe point, ça c'est ma famille, Dignitas. J'espère qu'il y a écrit dessus. Voilà. Aïe. Alors voilà, vous voyez. Voilà, prospectus, déclaration d'adhésion. Je suis en bonne santé, j'ai pas l'air complètement folle, je suis en bonne possession de mes moyens, pour l'instant du moins, etc. Je l'ai écrit, je l'ai réitéré, je me suis inscrite à l'association pour le droit de mourir dans la dignité, je me suis inscrite à Dignitas.
Dignitas, c'est l'association qui est
à Zurich, notamment.
Qui permet aux gens de mourir.
Moi, le meilleur encadrement qui est, c'est que simplement, chaque personne doit, comme moi je l'ai fait très tôt avec mes enfants, mes amis, les gens que je connais, vous, n'importe qui, je dis ce que je veux. Moi, je demande d'avoir le droit de partir quand mon corps ne me permet plus de vivre.
Et qui décide de ça ?
Moi. Et personne d'autre. Personne n'a décidé à ma place. Ni mon médecin, ni ma famille, ni mes amis, ni l'État, et encore moins l'État.
Vos enfants, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Ils sont au courant de votre décision ? Vous leur avez dit il y a 20 ans, mais aujourd'hui, alors que vous voyez le terme approché, qu'est-ce qu'ils en disent ?
Bah, ils ne sont pas joyeux, ils ne sont pas contents. Ils voudraient bien que ça n'arrive pas. Qui c'est qui peut être heureux d'entendre sa mère ou quelqu'un qu'on aime ? Moi, mon fils viendrait me dire ça demain, je ne serais pas heureuse, mais je respecterais sa décision. Bien sûr, je l'accompagnerais, je serais près de lui. J'ai une amie qui est aussi maintenant partie à Avignon, qui était une ancienne locataire de l'immeuble et qui était très proche de moi. Elle m'a dit, je t'accompagnerai, je serai près de toi. Elle me dit, est-ce que tu m'autorises à te tenir la main ? Je dis, ma chérie, c'est le plus beau cadeau que tu pourrais me faire. Je ne pensais même pas te le demander, parce que j'imagine ce que ça peut être traumatisant pour la personne. On a des discussions, elle est comme moi, la mort ne lui fait pas peur, elle a une philosophie et tout ça. Et bon, voilà, ce qui fait peur dans la mort, c'est la souffrance, c'est la dépendance, c'est la solitude, c'est de ne pas savoir. Mais si on en parle, si on sait que la solitude, on ne sera pas seul, si vous serez, on va pas tout, moi je veux pas des pleureux, je veux pas qu'on soit en noir, quelle horreur. Non, moi je voudrais partir. Vous m'avez dit tout à l'heure, est-ce que j'imagine ? Vous savez ce qui me plairait ? Mais ça, c'est pas réalisable, bien sûr, nulle part d'ailleurs. Ce serait parce que je dis, mon corps, il fait partie de la nature, hein. On va partir en poussière, en morceaux, pauvre bête. Et donc, ce serait partir dans la grande nature. Quand je dis la campagne, mais par exemple, je sais pas, dans la forêt vierge, en Amazonie, n'importe quoi, de la musique. Et puis, voilà, prendre quelque chose qui m'endorme et je pars. Voilà.
Qu'est-ce que vous mettez
devant la beauté de la vie, plein les yeux, avant de mourir.
Qu'est-ce que vous choisiriez comme musique ?
Oh, pas quelque chose de triste. Par exemple, Vivaldi. Les 4 saisons de Vivaldi. Bon, c'est pas que Vivaldi soit quelque chose de très triste. Je vais pas mettre un requiem, hein. Sûrement pas. Aïe, oui. Alors, Vivaldi doit être dans mon couloir, à moins qu'il soit ici. Soupa. Vivaldi, est-ce qu'il est là ou dans le couloir ?
Alors, c'est l'été.
Oui, à part. Ça, c'est connu.
C'est un peu mélancolique, là.
Oui, oui, non, c'est pas bon, ça, c'est pas bon.
Il faut autre chose,
alors. Faut autre chose de plus tonique, mais bon, ça en trouvera. Et qu'est-ce que je veux dire ? Non, parce que je suis d'une famille, c'est vrai que j'avais ma grand-mère qui était professeure de piano et de... de violon. Mon fils aussi compose la musique, etc. Et chez nous, non. Voilà, ça c'est bon. Alors quand je pars, à la seconde où je pars, c'est ça qu'il me faut me mettre. Avec ça.
Comment ?
J'aimerais bien m'endormir avec ça.
La vie, il y a de la mélancolie et puis il y a de la
joie.
C'est
la vie, c'est la vie. C'est la douceur. C'est de petites filles.
Ça, c'est la photo de vos deux petites filles. Ouais. Elles sont mignonnes comme tout.
C'est pas facile de les laisser.
Comment ?
C'est pas forcément facile de les laisser. Mais je veux pas qu'elles aient une image d'une grand-mère comme ça non plus. Elles sont toutes jeunes, je veux qu'elles aient des belles choses. Magnifique. Et la maladie, franchement, est-ce que c'est beau? C'est pas beau du tout, la maladie. La maladie, la souffrance, un corps qui est de plus en plus décrépit, qui ne tient pas, j'allais dire quelque chose qui n'est pas très agréable à dire, mais puisqu'on parle d'une des choses qui est très perturbante pour moi, la sclérose en plaques touche très souvent, là on ne va pas parler de beauté, des problèmes urinaires. Et il y a quelque temps, une chose qui s'est passée, je me suis réveillée, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la nuit pour aller aux toilettes justement, et ma couverture, je n'arrivais pas à soulever ni ma couverture, ni ma couette. J'ai eu un accès de panique, dans le noir en plus, et je n'arrivais pas du tout à lever. Je dis, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai une attaque ou je suis paralysée? Qu'est-ce qui m'arrive? Dans le noir, j'ai passé un temps infini pour arriver à repousser ma couverture, et je suis tombée. Ma jambe a flanché, j'ai plongé par terre. J'ai failli écraser mon petit chat qui, heureusement, était plus rapide que moi, qui a poussé un miaulement et qui a fait un bond. Je suis tombée par terre. Et la moitié du corps gauche ne marchait pas, ni ma main, ni ma jambe, ça n'allait pas du tout. Donc je me suis avancée comme ça en me tortillant sur les fesses, millimètre par millimètre pour aller jusque dans la salle de bain. Et mon chat, quand je vous parle d'attachement que j'ai pour cette petite bête, qui a vu qu'il se passait quelque chose d'anormal, était devant moi. Il marchait à reculons. Et moi je me tortillais et je voyais mon chat. Et comme ça, et il m'a accompagnée jusque là-bas. Et tout le long du chemin, la seule chose qui me traversait l'esprit, vous savez ce que c'était ? C'est qu'il ne fallait pas qu'on me trouve comme ça par terre. Pour dire les choses, j'ai fait pipi par terre. La honte. J'en ai pleuré, je pleurais. J'étais en train de me tortiller pour arriver.
Les larmes qui venaient, ce n'étaient pas des larmes de douleur, c'était des larmes de honte.
De honte, de rage. Et là, je les ai encore...
Elles sont encore là.
Je dénie à qui que ce soit de me dire que c'est la vie, de m'obliger à supporter ça, ce qui s'est passé là. Si ça se reproduit, je me tranche la gorge. Je me coupe la carotide, je ne sais pas exactement où elle est, je tâcherai de la repérer à l'avance. Je fais n'importe quoi, je ne revivrai pas ça si je peux l'éviter. Je n'accepterai pas ça. Ça, c'est la déchéance. Depuis... Je ne peux pas dormir dans le noir. Je laisse la lumière allumée dans ma cuisine toute la nuit. Depuis, quand je vais aux toilettes, mon petit chat, je vous jure que ce n'est pas des blagues. Dès que dans la maison, il se balade à droite à gauche. Dès qu'il m'entend aller aux toilettes, Il est devant la porte, il marche devant moi, il s'arrête, il marche. Je lui dis, Balou, avance. Il râle parce que toi, t'as l'air de dire, attends, je suis devant toi et tu en plus, tu m'engueules. Il ne fait ça que depuis qu'il a vu qu'il s'était passé quelque chose. Il n'a pas compris, hein, Balou ? T'avais vu ? S'il ne comprend pas ce que je raconte. Hein, Babadou ? Hein, t'es mon petit chat. Voilà. Oui, excuse-moi, je t'ai pas attrapé gentil. Viens, ma beauté, fais voir comment tu es beau. C'est un petit copain à quatre pattes, ça. Hein, mon Balou ? Vous voyez cet épisode-là ? Je vous dis, je suis arrivée au stade, il faut que ça s'arrête. Et voilà. Ben tiens, moi j'ai profité pour jeter ça, c'est mon fameux truc qui est cassé. Alors vous voyez, c'est aller voir en témoin aussi comment ça se passe dans les escaliers. Alors voilà, parce que je suis pas avec ce fichu et demi-étage, c'est pas facile. Mais ça vient, mon radiateur, il est mort. Je peux pas le descendre. Donc j'espère que quelqu'un va m'aider à le mettre dans la rue pour téléphoner à la mairie pour l'enlever.
Vous l'avez mis sur votre palier ?
Oui.
Je vous le descends.
Vous pouvez ?
Oui.
Mais il est un petit peu lourd quand même, non ? Non, non. Ça va aller ? Vous voulez pas que je vous aide ? Vous voyez ?
Non, non, ça va aller, vous inquiétez pas.
Bon, je vous remercie beaucoup.
Merci. Merci. Au revoir.
Je vous tire ma révérence. C'était un reportage de Benoît Colombat. Réalisation Anne Lioro, assistante Audrey Ripouille, mixage Jean-Michel Coqui. Interception est préparée et présentée par Simon Tivol et Angélique Boin. Merci à Josiane, Ariane et Nelly pour ces témoignages si intimes et si douloureux pour elles et leur famille. Toutes les trois ont accepté de se confier afin, disent-elles, de faire avancer ce débat sur la fin de vie. Sur notre site internet, vous trouverez des références d'ouvrages et des liens avec des sites qui traitent de ce sujet. We'll be right back.